Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Dans cette émission, nous aimons vous présenter des médias atypiques. Ces derniers temps, on a souvent parlé de podcasts, de newsletters qui racontent le réel et créent un lien direct avec leurs audiences. Cette semaine, on va parler d'un média qui est une lettre envoyée par la poste et qui arrive donc dans les boîtes aux lettres de ses abonnés. La Disparition est née en janvier 2022. Il se présente comme un média épistolaire et politique qui chronique les disparitions en cours dans notre monde. Bonjour Annabelle Perrin.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes la cofondatrice et la rédactrice en chef de La Disparition. Commençons par parler de la genèse de votre média. Elle est racontée dans le manifeste que l'on peut lire sur ladisparition.fr. Tout a débuté durant le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Durant ce premier confinement, vous vous êtes répété « tout peut disparaître » comme une urgence.
Alors en fait c'est vrai, mais à moitié vrai. La genèse, le véritable début de la disparition, avec François de Monès, l'autre cofondateur, on en a eu l'idée il y a à peu près 2 ans. On voulait créer un média et raconter ce qui est là autour de nous, dans notre société, ce qui structure notre société, qu'on croit être là pour toujours, mais qui en fait pourrait disparaître. On se disait pourquoi on n'imaginerait pas ce que serait la France sans prison, ce que serait la France sans hôpital public, ce que serait la France sans ministère de la Culture, par exemple. Et puis, l'idée tournait un petit peu en rond, c'était un petit peu compliqué à mettre en place, parce qu'évidemment, il y a une idée, il y a de l'anticipation, quoi. Donc, ça aurait été un mélange à la fois de reportage, d'analyse, mais aussi d'hypothèses. Et puis, est arrivé, comme on le raconte dans le manifeste, le premier confinement, la pandémie et donc le confinement, et l'élément déclencheur, ça a vraiment été, on le dit souvent, on le répète tout le temps, mais l'élément déclencheur, ça a vraiment été l'attestation de déplacement.
C'est-à-dire qu'en France, à cette époque-là, il fallait que chacun remplisse au format papier ou sur son smartphone une attestation pour expliquer pourquoi il sortait de chez lui.
Et le tout contrôlé par la police. Une heure par jour, tout d'un coup, en fait, l'État décidait du temps qu'on pouvait passer dans la rue, une heure en l'occurrence, et si c'était 1h15, eh bien on était contrôlé, on avait une amende. La police nous mettait une amende. Alors certes, moment tout à fait spécial, extraordinaire, une pandémie mondiale, nous n'avons jamais vécu ça. Mais tout de même, on s'est dit, on peut nous enlever notre droit à la mobilité dans notre ville sur décision d'un gouvernement et finalement sans provoquer l'ire de la population. Les gens ont plutôt accepté ça de manière assez docile. Et donc, c'est plutôt cette idée de disparition qui nous est apparue comme quelque chose d'important, comme un angle intéressant. Et évidemment, on a tout de suite pensé à la disparition de certaines espèces, à la disparition de la biodiversité. Et on s'est dit, pourquoi imaginer ce qui pourrait disparaître alors que des choses disparaissent déjà? Et donc, on avait trouvé l'angle. On s'est dit, on doit raconter, chroniquer, inventorier des disparitions.
Alors justement, vous intéressez aux grands problèmes contemporains, aux défis de l'humanité qui sont souvent liés à l'environnement. Ça semble être une notion structurante de votre ligne éditoriale.
Comment faire autrement aujourd'hui? On en parlera tout à l'heure sûrement, mais on a également une newsletter qu'on envoie sur la boîte mail de manière conventionnelle à nos abonnés. C'est un jeudi sur deux. Et dans la dernière newsletter, on parle de la disparition des oiseaux au Pakistan. Ils tombent du ciel en ce moment à cause des trop fortes chaleurs. Oui, je pense qu'effectivement, je dis ça aussi souvent, mais j'y crois profondément. Appeler notre média La Disparition et raconter des disparitions, c'est en fait être, je pense, et je le dis de manière modeste parce que c'est un petit média, c'est être au diapason avec notre époque, en fait. On pouvait, il fut un temps, appeler son média Libération, l'humanité, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, regarder en face la situation, l'affronter, c'est ce qu'on doit faire, raconter aussi le monde en tant que journaliste, c'est appeler son média La Disparition, au risque de paraître triste, au risque de faire peur, au risque que ça ne soit pas sexy, mais en tout cas, je pense que c'est être au diapason avec son époque, je ne peux pas le dire autrement.
Mais vous n'êtes pas pessimiste, ce n'est pas un média de l'effondrement.
Non, ce n'est pas un média de l'effondrement parce qu'on peut par ailleurs raconter des disparitions souhaitables. La lettre numéro 7, si je ne m'abuse, raconte la disparition de la maladie du sommeil. L'auteur Adrien Absolu est au Congo où la mouche tsetse pique encore et où on meurt encore de cette maladie du sommeil, mais il raconte quand même une disparition. Donc il y a des choses, il y en a aussi des souhaitables. En fait, les journalistes, et quand on est invité à présenter la disparition, on nous demande souvent « mais comment faire pour ne pas être triste ?» Alors nous, on raconte ce qui est vrai. Dans nos lettres, il y a des gens qui luttent contre ces disparitions, contre ces quartiers qui disparaissent, contre des maternités qui disparaissent, par exemple. Mais il ne faut pas forcément chercher les bonnes nouvelles et chercher à vouloir raconter des belles histoires.
Et pourtant, vous racontez des histoires, une histoire, en fait, toutes les deux semaines. Donc concrètement, tous les 15 jours, vos abonnés reçoivent une enveloppe en papier craft au format A5. Donc c'est comme une page classique pliée en deux. Ils reçoivent ça dans leur boîte à lettres. C'est un courrier dont certains sont rédigés de telle sorte qu'ils nous sont, nous, lecteurs, directement adressés. La plupart débutent d'ailleurs par « à toi qui me lis ». Vous tutoyez le lecteur, vous utilisez et les auteurs utilisent la première personne. Le jeu. J'ai lu par exemple l'expression « j'espère que cette lettre te trouvera vite ». L'idée de créer une relation directe entre l'auteur et celui qui reçoit le lecteur.
C'est vrai, pour raconter l'épistolaire, la correspondance, en fait, il faut dire qu'on a raconté l'idée de la disparition, comment nous est venue l'idée de la disparition. Et en fait, l'idée de la lettre, de la correspondance, est venue après. D'abord, on pensait faire un site internet de manière assez classique, pour des raisons tout aussi classiques, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, même quasiment rien. Et puis, on a vite compris que c'était quand même pas très logique de raconter des disparition sur un site internet qui reste là à vie pour toujours et qui laisse des traces. Donc on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qui disparaît ? C'est plutôt le papier. Alors la revue, ça aussi, ça nous a semblé éminemment complexe, sans maison d'édition derrière. Et donc on réfléchissait, et puis un matin on est allé relever notre courrier, comme souvent, pas toujours, mais souvent, et il y avait des mauvaises nouvelles, des factures et de la publicité. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'imaginerait pas recevoir une lettre d'un journaliste qui nous raconte son reportage, plutôt que de le lire dans Libération comme j'ai fait ce matin? Et bien en fait, je pourrais le lire maintenant, en ouvrant mon courrier. Alors qu'en plus, évidemment, la correspondance disparaît, on a tendance à de moins en moins s'écrire quand même. Du coup, l'idée de la lettre est née de là. Et puis il y avait un truc un peu, on vous écrit du front de la disparition, quoi. On aime bien l'idée d'imaginer vraiment le journaliste en train d'écrire en fait à sa petite amie ou à son papa et de nous raconter exactement ce qu'il est en train de vivre et comment il voit les choses. Et donc le tu est venu naturellement quand on a demandé aux journalistes de d'écrire leur reportage sous forme épistolaire. Évidemment, tout de suite ils l'ont fait au tu. Alors je remarque quelque chose, c'est assez drôle, les journalistes plus confirmés, ont un peu de mal avec le jeu. Et c'est un petit peu difficile pour eux, je vois qu'ils tâtonnent. Alors que les journalistes plus débutants, ceux qui sortent d'école de journalisme, ils font ça assez naturellement. Et je ne me l'explique pas vraiment, étant donné qu'en école de journalisme, on nous interdit formellement le jeu.
Revenons sur cet objet, donc cette lettre, Annabelle Perrin, que vous envoyez toutes les deux semaines à vos abonnés, La Disparition. Il y a donc cette lettre, mais il y a aussi une carte postale avec une photo en lien avec l'histoire qu'on est en train de lire. Donc l'idée là aussi, que l'abonné lui-même puisse faire vivre le média, son identité et l'histoire racontée, en l'envoyant à ses proches s'il le souhaite.
C'est ça en fait, à la place de la fameuse photo
d'illustration.
Illustration qu'on découvrirait dans un grand reportage, dans l'Obs ou l'Express, pour citer des classiques. Effectivement, nous, cela prend la forme d'une carte postale. Alors, elle est prise, c'est une photographie qui est prise par le journaliste s'il sait faire des photos, s'il aime ça. Ça peut être, si ce n'est pas le cas, ça peut être une illustration. On aime bien laisser place à l'illustration. On ne s'interdit pas des photos d'archives. Par exemple, pour la maladie du sommeil, on a choisi une photo d'archives d'un vieil hôpital à Brazzaville. On trouvait que c'était intéressant. On aime bien jouer avec la temporalité aussi. On trouve ça assez drôle, décalé, quand on reçoit une lettre qui a été écrite le mois d'avant, mais la carte postale, en fait, est une photo d'il y a 20 ans. Il n'y a pas de règle, tout est possible. Je rêve, moi, d'une lettre d'Annie Arnaud où elle nous confierait une photo d'elle quand elle était enfant. Pourquoi pas ? Je sais qu'elle aime écrire des lettres, donc pourquoi pas. Mais oui, la carte postale, ouais, c'est un truc... en fait, on espère effectivement que les gens se la renvoient et de créer une espèce de communauté... De gens qui collectionnent les cartes postales de la disparition, mais sans trop dévoiler ce que je sais, ce que j'ai cru comprendre. Je crois que les gens gardent la carte postale et la mettent plutôt sur le frigo.
Il y a aussi une carte, format carte de visite, avec une courte biographie de l'auteur ou l'autrice de l'article et de la lettre.
C'est vrai, tout simplement parce que quand on a fait une lettre zéro, qui était écrite encore par Julien Bricot, qui racontait la disparition du métier de chauffeur routier aux États-Unis, métier menacé à cause de camions Amazon, eh bien, certaines personnes à qui on a envoyé cette lettre zéro, je pense à peu près 300 personnes, on a passé un appel en fait sur les réseaux sociaux en disant qui veut découvrir notre travail et nous faire un retour par la suite, eh bien, beaucoup nous ont dit très chouette cette lettre, mais en fait, qui est Julien Bricot, nous, on ne le connaît pas. Et donc, on a décidé de glisser une sorte de petite bio. Je trouve que c'est toujours quand même agréable de recevoir une lettre et de savoir qui l'écrit.
Également, une grille de mots croisés. Quelle est l'ambition derrière les mots croisés que vous envoyez toutes les deux semaines à vos abonnés ?
Alors, les mots croisés... En fait, on était influencés, François et moi, par une revue qui n'existe plus, la revue Le Tigre, de Laetitia Bianchi et Raphaël Mels. On aimait beaucoup leur travail. Avant, d'ailleurs, ils avaient fait quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a appris à connaître quand on a lancé La Disparition, et quand on s'est intéressé aux médias parallèles, comme on dit, R de réel. Et en fait, ils passaient l'alphabet, ils commençaient à A, ils finissaient à Z, et toutes les lettres créaient une revue, quoi, à partir juste de la lettre. Et donc, dans Le Tigre, on aime Le Tigre, on aimait Le Tigre parce que il y avait une réflexion vraiment de la part des journalistes sur le format. Ils étaient très connus pour faire quelque chose qui aujourd'hui peut paraître banal, mais dans les années 2000, c'était drôle. Il y avait un portrait de quelqu'un juste avec des infos glanées sur Internet. Enfin, ils réfléchissaient, ils n'hésitaient pas à mettre des romans photos, des feuilletons. Enfin, bon, il y avait une vraie réflexion sur ce que la forme peut apporter au fond, et il y avait aussi une critique un peu des médias. Et on aimait ça. Et quand on a lancé La Disparition, par hasard, quelqu'un nous a dit « Est-ce que vous connaissez Jean-Paul Lapin ? C'est lui qui faisait les mots croisés du tigre. » Alors, on l'a rencontré et on lui a proposé de continuer, en fait, les mots croisés qu'il faisait dans Le Tigre. C'est ce qu'il a fait. C'est un humour... très caustique, parfois un peu grossier, parfois un peu vintage. C'est assez compliqué aussi. Je sais que beaucoup de gens me disent ne pas y arriver, mais pour l'histoire, on gardera les mots croisés.
Vous essayez justement, du coup, de soigner l'objet, un objet qu'on a envie de garder. Alors, c'est en caractère d'imprimerie, c'est comme si cela avait été tapé à la machine à écrire, et c'est parfois long. Très long, il y a même une des histoires qui est sur 18 pages ou 20 pages, quelque chose comme ça. L'idée d'être bien sur le temps long et d'être dans un objet fini, dans un monde de flux.
Je pense qu'il y a trop à lire, trop sur nos téléphones, trop sur nos écrans, et que ce trop crée du peu ou crée du moins. Et j'espère qu'un long papier toutes les deux semaines permettent de poser les écrans et permettent de réfléchir et de s'accorder un moment. En fait, j'espère même que le parcours qu'on essaie de créer de chez soi jusqu'à la boîte aux lettres, puis de la boîte aux lettres jusqu'à son canapé, crée un moment où on se donne le temps de lire.
Et la première lettre que vous avez envoyée était à propos de la disparition de l'arbre dragon de Socotra, cette île qui est au large du Yémen. Une autre lettre est rédigée par la journaliste Sophie Bouillon, qui, on se doit de le préciser aussi, est responsable de l'antenne de RFI en Haoussa, à Lagos. Elle écrit depuis Lagos, donc au Nigeria, où elle raconte la disparition des arbres, car l'espace se réduit de plus en plus là-bas en raison des constructions immobilières. Des promoteurs immobiliers font fortune à Lagos en construisant toujours plus, et elle a décidé de raconter cette histoire, la grande histoire, à la hauteur d'un homme qui, lui, eh bien, se bat pour défendre quelques arbres.
À toi qui me lis, je t'écris d'une ville sans arbres, sans nature, où il ne reste que quelques gouttes infimes de verdure dans un océan de béton, de tôle, de fumée, de macadam, d'ordures, de plastique et de gens. Je t'écris d'une ville de 20 millions d'habitants. Peut-être sont-ils 17 millions, plus vraisemblablement 23. En réalité, personne ne le sait vraiment, car personne ne les a comptés depuis bien longtemps. Je vais essayer de te décrire tant bien que mal à quoi peut ressembler une ville grouillante de 20 millions d'habitants, où la propriété foncière a tous les droits, où personne n'a réfléchi à préserver des espaces publics, où tout n'est que du chacun pour soi. C'est un défi que je me suis lancé il y a de nombreuses années déjà, un défi qui me passionne autant qu'il m'obsède. Réussir à décrire et raconter Lagos. Car autant te le dire tout de suite, je ne suis pas sûre d'y arriver. Je ne suis d'ailleurs pas sûre que le cerveau humain puisse même se la représenter. Tout à Lagos échappe à l'entendement et à la raison. Et même en l'ayant vu, même en vivant en son sein, il est difficile de se figurer les millions et les millions de personnes qui la composent, qui nous entourent sur des dizaines de kilomètres à la ronde, sauf à être pris d'un immense vertige. Dans les quartiers populaires, soit 80% de la ville, se déplacer entre les foules, entre les étals de marché, entre les détritus, entre les voitures, entre les motos, c'est un parcours du combattant. Ici, chaque centimètre carré est exploité, occupé. Chaque grille d'église ou d'habitation est utilisée comme étendoir de salle de bain, de vêtements ou de présentoir pour les marchandises. Chaque fenêtre ou balcon est transformée en vitrine de magasin. Chaque siège de minibus est rentabilisé. Chaque moto transporte autant de passagers que sa selle peut en contenir. On étouffe à Lagos. On se marche dessus, on se pousse, on se serre. Alors évidemment, tu penses bien, les arbres.
Vous écoutez l'Atelier des médias, je suis toujours avec Annabelle Perrin, qui est cofondatrice et rédactrice en chef du média La Disparition. J'aimerais maintenant qu'on parle de votre modèle économique. Donc, vos lettres, vous les envoyez toutes les deux semaines par la poste. Il y a possibilité de s'abonner, soit au format mensuel pour 11 euros ou de façon annuelle pour 130 euros. On peut aussi acheter les lettres au numéro. Eh bien déjà, combien d'abonnés avez-vous pour le moment ?
On a un peu moins de 1000 abonnés. Je pense que là, aujourd'hui, on est à 950 abonnés. La première lettre, c'est un peu particulier parce qu'on avait, pour se faire connaître également et pour se lancer, comme on n'avait vraiment pas d'argent, on a fait un kiss-kiss bank-bank.
Donc une campagne de financement participatif.
Où on ne demandait pas de l'argent, mais où on vendait un nombre de lettres, en fait. C'était des lettres en pré-vente. Et donc, la première lettre, on l'a envoyée à peu près 1400 personnes. Parce que certains avaient pris l'abonnement, le minimum était de 6 lettres, si mes souvenirs sont bons. Et donc aujourd'hui, on est redescendu un petit peu à 900 000 abonnés, il me semble. Et il y a 4000 personnes abonnées à notre newsletter.
Et dans votre idée, eh bien, combien d'abonnés visez-vous ou de combien d'abonnés avez-vous besoin pour continuer l'aventure ?
Pour que le média existe, si on ne se paye pas, il nous faut 1500 abonnés, ce qui est atteignable, j'espère. Et pour pouvoir se payer un SMIC, François et moi, donc environ 1200 abonnés, il nous faudrait à peu près 2000 abonnés.
Et donc, ces abonnés, vous leur proposez aussi de rejoindre un club d'abonnés, le club des disparus volontaires, pour essayer eh bien, de proposer une expérience pour prolonger la lecture.
En fait, on a été très étonnés quand on a lancé La Disparition, au tout début, enfin, avant même d'envoyer les premières lettres, quand on a relayé notre site internet sur les réseaux sociaux et quand on a expliqué ce qu'on comptait faire dans les mois à venir, on a reçu des lettres. On n'y croyait pas, quoi. On pensait que peut-être nos potes, par gentillesse, allaient nous envoyer 2-3 courriers pour nous dire « Allez, les gars, continuez, ne lâchez rien ». Mais non, les gens nous ont écrit et on a reçu peut-être 50 lettres, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Et les témoignages étaient souvent les mêmes. J'aime écrire, j'écris toujours à mes amis, mais je ne sais pas à qui écrire. Je suis ravie par l'idée de la disparition, on va pouvoir se réécrire des lettres, etc. Et donc, on s'est dit, mais les gens ont quand même envie. Il y a une sorte de lieu commun qu'on dit toujours quand on lance un média, c'est on va essayer de recréer du lien avec les lecteurs. On entend toujours ça. Alors, c'est vraiment un truc tarte à la crème, et donc je ne veux pas le dire. Mais malheureusement, je vais être obligée de le dire. C'est vrai que quand ces lettres nous sont parvenues, on s'est vraiment dit, mince, on pourrait même faire plus. Comment faire plus alors? Puisque là, on a quand même... C'est quelque chose, quoi. C'est des gens qui partagent leur vie. Il y avait des témoignages, vraiment. Je suis une vieille dame, j'habite à cet endroit, je suis seule, et j'écris à... Parfois, j'écris à des gens au hasard, que je prends dans l'annuaire. Et donc là, je viens d'entendre parler de votre démarche, je vous écris. Enfin bon, il y a une envie quand même des gens. Et du coup, on s'est dit, bon, que faire de plus? L'étape d'après, c'est effectivement de se rencontrer. Et donc, on a eu l'idée de ce club des disparus volontaires où, en fait, on se rejoindrait et on disparaîtrait ensemble pendant quelques heures. Notre première marche aura lieu...
Donc voilà, c'est ça, c'est que vous organisez une marche dans un lieu qui aurait pu faire l'objet d'un récit.
Et fera toujours l'objet d'un récit. C'est l'idée. Il faut que le lieu où on va se déplacer tous ensemble fasse l'objet d'une lettre parue ou apparaître. Et donc, le samedi 2 juillet, on sera une trentaine, je l'espère, les lecteurs et nous, la disparition, avec Raphaël Mels qui va raconter sa lettre, raconter pourquoi il a choisi ce lieu, raconter sa manière aussi de travailler, parce qu'il n'est pas journaliste. Il se décrit plutôt comme écrivain et comme historien. Et donc, il va raconter l'importance des lieux quand on choisit un sujet. Et ça sera à la fois une discussion sur comment on fabrique le journalisme et comment on choisit un sujet.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Annabelle Perrin, cofondatrice et rédactrice en chef du média La Disparition, d'être venue dans l'atelier des médias. Pour ceux qui veulent en savoir plus, un seul site internet, ladisparition.fr. Je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup.
C'est bientôt la fin de cette émission, le moment de Mondoblog Audio qui vous fait entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, alors que le 28 mai est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, la franco-tchadienne Sandrine Nagertiga nous parle du tabou des règles féminines, malheureusement encore très présent dans certains pays, notamment en Afrique.
Dans plusieurs régions du monde, et plus particulièrement en Afrique, les jeunes filles et les femmes sont confrontées à un problème majeur, celui de la stigmatisation des règles féminines. Elles font face à des moqueries, des remarques désagréables qui, bien souvent, accentuent un sentiment de mépris qu'elles ressentent déjà très fortement. Pour certaines filles, avoir ces règles les isole complètement des autres. Elles n'osent pas en parler et restent confinées en attendant que ça passe. Dans ces cultures, la société dit aux femmes que les règles sont quelque chose de sale qu'elles devraient cacher. Elles intériorisent malgré elles ces clichés véhiculés par l'ensemble de la population et s'isolent. Mais en subissant seules les douleurs et la honte associées à leurs règles, les femmes alimentent ce sentiment de gêne et d'humiliation. Souvent, les jeunes filles abandonnent le chemin de l'école pendant leurs règles à cause des douleurs rencontrées, mais aussi parce qu'elles se sentent seules et honteuses. Elles sacrifient l'école à cause de leur menstruation et se retrouvent en situation de décrochage scolaire. Beaucoup d'idées reçues empêchent les femmes de mener une vie normale lorsqu'elles ont leurs règles. Ces croyances sont ancrées dans les consciences, pourtant elles sont infondées et totalement absurdes. Par exemple, tiens, les règles sont déshonorantes et honteuses. Mais pendant les règles, on apprend aux filles à toujours se tenir à l'écart. Les femmes ne doivent absolument pas en parler, encore moins en présence des hommes. Les règles sont perçues comme quelque chose de sale ou encore comme une maladie. Pendant les règles, la femme est interdite de cuisine sous peine de rendre la nourriture impropre à la consommation et contaminante. Ces clichés sont nombreux et il faut les combattre. Mais le sujet des règles ou encore des menstruations reste très tabou, alors que ce devrait être un sujet de société et de santé publique. Femmes et hommes, nous sommes tous concernés. Rappelons que les règles féminines sont un phénomène biologique, naturel et normal qui arrive tous les mois chez une femme en parfaite santé. Il ne s'agit pas d'une maladie, bien au contraire, c'est un signe de bonne santé. Le corps de la jeune fille se modifie à l'âge de la puberté et s'accompagne des menstruations, qui signifie qu'elle est devenue féconde, que ses organes de reproduction fonctionnent bien et qu'elle peut désormais être enceinte. Les règles ou menstruations font donc partie du cycle de vie naturel des femmes. Et il n'y a aucune raison d'avoir honte de ces règles. Grâce à leurs règles, les femmes peuvent donner la vie. Si les règles n'existaient pas, l'espèce humaine n'existerait pas non plus. Pour promouvoir la confiance en soi et l'estime de soi chez les filles, je propose de célébrer le cycle féminin en brisant les tabous. Pendant leurs règles, les femmes doivent pouvoir vivre librement et continuer leurs activités comme elles le font d'habitude. Pour cela, il faut améliorer l'accès aux protections hygiéniques et aux médicaments contre la douleur. L'éducation, quant à elle, à la question des règles est aussi très importante. Pourquoi ne pas inclure le sujet dans le programme d'éducation nationale, par exemple ? C'est dès le bas âge que les filles et garçons doivent être sensibilisés. Pour lutter, il faut parler. Cela permet de combattre les stéréotypes et de banaliser le sujet. Alors on pourra voir la balance pencher du côté positif pour les femmes et le respect de leur cycle menstruel, dont elles peuvent être fières.
Mondoblog.org.
C'était Sandrine Nagartiga, jeune entrepreneuse et blogueuse franco-tchadienne et grande afro-optimiste. Pour lire ses billets sur l'Afrique qui bouge, rendez-vous sur son blog youngleader.mondoblog.org. Des dizaines de Mondoblog audio comme celui que vous venez d'entendre sont disponibles à l'écoute sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou encore l'appli Radio France. Mettez-nous des étoiles sur toutes les plateformes où vous le pouvez et laissez un commentaire pour donner envie au plus grand nombre de rejoindre notre communauté d'auditeurs. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.